Bonsoir. À l'occasion de la Journée internationale du maintien de la paix et à quelques semaines de la fin de la transition congolaise, Dialogue entre Congolais aborde ce soir l'un des principaux enjeux de la paix en RDC, à savoir la sécurisation des élections. Que ce soit en Ituri, au Nord Kivu, tout comme au Sud Kivu, la présence dans certains territoires des éléments armés à plusieurs casquettes inquiète et préoccupe au plus haut niveau la population civile qui s'interroge sur la tenue normale des élections. Des habitants des territoires considérés comme fiefs de certains ex-belligérants sont aussi soucieux de voir ces scrutins se dérouler dans la transparence et la quiétude. Enfin, des candidats présidents de la République, députés nationaux et provinciaux qui ne sont pas dans les institutions de la transition, eux aussi se posent de nombreuses questions quant à leur sécurité. Que prévoit le gouvernement congolais et la MONUC pour la sécurisation des électeurs et comment se fera la sécurisation des candidats? Nos auditeurs ont déjà leurs idées là-dessus et Mwepu, à Goma, au Nord Kivu, pense que le refus de certaines troupes d'aller au brassage et la libre circulation des éléments hutu-rwandais dans certains territoires prouve que la sécurisation des électeurs et des candidats est fragile. Kiza Biamungwa Kisangani, dans la province orientale, estime que la force qui doit sécuriser les candidats doit être brassée pour éviter les pires. Toujours selon lui, tous les candidats doivent avoir la même sécurité. Et les invités des dialogues entre Congolais ce soir sont le général Isidore Odimula, coordonnateur du groupe technique pour la sécurisation des élections. Bonsoir, général.
Bonsoir, madame.
Kemal Saïki, porte-parole de la MONUC. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et colonel Jacques Ebenga, expert militaire et ancien conseiller au ministère de la Défense. Bonsoir.
Bonsoir, et de l'intérieur. Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par SMS, composez-le 081 051 57 78.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Le monde entier fête aujourd'hui la journée des casques bleus. Ces hommes et femmes qui ont servi et qui servent encore dans les opérations des Nations Unies de maintien de la paix. Ce soir, nous allons voir comment ces casques bleus de la MONUC, ensemble avec le gouvernement congolais, vont sécuriser les élections en RDC. Et tout de suite, commençons par la première partie de cette émission, à savoir la sécurisation des électeurs, tâche que le législateur a confiée à la police électorale. Avant que nos invités n'interviennent, voyons dans ces reportages de notre confrère Freddy Lufuluabo quelles dispositions juridiques sont prises pour la sécurisation de ceux qui vont participer au vote prévu dans quelques semaines en RDC.
Les électeurs seront protégés par la police électorale, une unité de la police nationale congolaise chargée d'assurer l'ordre et la tranquillité autour des bureaux de vote. Le président d'un bureau de vote peut faire appel à ses policiers pour intervenir en cas de trouble à l'intérieur de son bureau. Aucun agent de l'ordre ne peut accéder dans un bureau de vote sans y être invité par le président de ce bureau. Des pénalités sont prévues pour les contrevenants. Quiconque va inciter les autres à commettre les actes de violence dans un bureau de vote risque de passer 5 ans en prison. La police électorale va se déployer en principe dans un rayon de 30 mètres de chaque bureau. Pas d'armes, pas d'effigies ou des signes distinctifs des partis politiques, pas de trafic d'influence et d'intimidation sur les électeurs. Cependant, quelles dispositions spéciales faudra-t-il prendre pour sécuriser les électeurs dans les territoires considérés comme fiefs des ex-belligérants qui forcent la population à voter rien que pour eux? Qu'en est-il également des zones où la sécurité est troublée par la présence des groupes armés, tant nationaux qu'internationaux, comme l'Ituri, le Nord Katanga et le Kivu?
Général Isidore Odimula, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes coordonnateur du groupe technique pour la sécurisation des élections. Au cours de cette émission, nous allons étudier la question de la sécurisation des électeurs cas par cas, mais répondez-nous brièvement comment vous comptez sécuriser ces électeurs.
Merci madame pour la parole que vous venez de m'accorder. Et je tiens d'abord à rendre hommage aux Nations Unies pour le rôle combien important dans l'accompagnement du processus électoral dans notre pays. L'intervenant de tout à l'heure a parlé d'une unité de police électorale. En réalité, il n'y a pas d'unité de police électorale. Il y a un cadre juridique qui a été signé par le président de la République Il s'agit du décret numéro 05/026 du 6 mai 2005 portant plan opérationnel de sécurisation du processus électoral. Ce plan s'appuie essentiellement sur la police nationale dans son ensemble pour assurer avant, pendant et après la sécurisation du processus électoral. Et donc, c'est l'ensemble de la police qui va assurer la sécurisation du processus électoral en collaboration avec les autres services de sécurité, à savoir
l'armée,
les autres services de sécurité, la MONUC. Mais le rôle moteur est joué par la police nationale congolaise.
Donc, vous avez prévu que les troupes étrangères viennent également en renfort en RDC pour vous épauler. Alors, Augustin Toumba Tshibala à Kongolo, au Katanga, veut savoir pourquoi faire recours aux armées étrangères pour sécuriser les élections pendant que notre armée est dite intégrée. Ça, c'est une première question d'un de nos auditeurs.
Je crois qu'il faut peut-être mieux cadrer ce que l'on entend par la sécurisation. Lorsque des unités de l'armée ou de la MONUC se battent contre les groupes armés, il s'agit là de la sécurisation au sens large du terme, c'est-à-dire en sécurisant le territoire national, l'armée et la MONUC sécurise en même temps le processus électoral. Mais la sécurisation dont il est question ici, c'est la sécurisation directe des opérations électorales. Celle-là, elle est assurée par la police nationale congolaise.
Nous allons revenir sur cette question. Kemal Saïki, vous êtes porte-parole de la MONUC. La MONUC est elle-même impliquée dans la sécurisation des élections en RDC. Également, répondez brièvement comment la MONUC compte sécuriser les électeurs dans ce processus.
Mais écoutez, comme le général l'a si bien dit, il y a une considération d'ordre général,
oui,
qui est la protection de l'intégrité de la souveraineté de la République démocratique du Congo, et qui est la première responsabilité de ces forces de sécurité, à savoir l'armée et la police. Nous y apportons notre soutien, notre support, en n'oubliant pas le principal et le plus grand rôle que jouent les forces de la MONUC, c'est-à-dire la protection des populations civiles. Alors, que ces populations civiles soient des électeurs ou ne soient pas des électeurs, la nuance n'est pas perceptible pour nous. Il s'agit de populations civiles que nous avons mandat de protéger, en support aussi des forces congolaises et des autorités de sécurité appropriées.
Mais vous vous impliquez plus aussi pour la sécurisation des élections. Quand vous dites sécurisation des élections, voilà les électeurs, les candidats et bien sûr la population.
Bien sûr, c'est un peu comme une poupée gigogne. Vous avez la considération principale de l'intégrité et de la souveraineté du territoire national congolais, ainsi que la protection des populations civiles. Et à l'intérieur de cela, vous avez une circonstance particulière qui va être la période électorale. Et nous allons renforcer les dispositions que nous avons, que nous prenons déjà en temps normal, mais qui vont spécifiquement permettre à l'établissement d'un climat serein, qui vont permettre à leur tour à ces élections que nous voulons tous voir aboutir.
Oui, est-ce que ces dispositifs que vous prenez déjà, c'est plus en rapport avec les dérapages pendant les élections ou des dérapages militaires qui pourraient mettre de la contestation même des résultats des élections?
Écoutez, nous, lorsque nous parlons de sécurisation globale. Mm-hmm. Ce que nous voulons, c'est de créer un climat de sécurité dans lequel les électeurs, les Congolais, se sentiront libres d'aller aux urnes et de choisir les dirigeants qui dirigeront le pays demain. Donc, les conditions spécifiques à ce titre et en ces termes, je ne dirais pas qu'elles importent peu, mais elles ont beaucoup moins d'importance que le but principal, c'est de faire en sorte que le climat de sécurité soit propice à ces élections, qu'elles puissent se dérouler dans la sérénité nécessaire pour qu'elles soient crédibles, ouvertes et transparentes.
Colonel Jacques Benga, vous venez d'écouter M. Kemal Saïki, porte-parole de la MONUC, mais également le général Isidore Odumula, qui est coordonnateur du groupe technique pour la sécurisation des élections. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces deux analyses?
Je note que la sécurisation des élections, c'est comme un immeuble à plusieurs étages. Ça dépend de l'objet qu'on veut sécuriser. Il faut d'abord qu'on dise clairement de quoi il s'agit. Il s'agit de sécuriser le personnel, d'abord électoral, le matériel électoral.
Ici, on parle des électeurs, d'abord.
On peut pas dissocier tout cela, vous savez. Le matériel électoral, s'il est abîmé, ben, les élections ne peuvent pas avoir lieu non plus. Donc il y a le matériel électoral, les électeurs, les candidats, les institutions, les frontières, tout cela fait partie de cet ensemble qui doit faire l'objet de la sécurisation des élections. Donc je suis tout à fait d'avis qu'il faille voir quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour contrer les risques que chacun de ces paramètres-là peut rencontrer dans le processus électoral.
D'accord. Dans cette émission, nous avons prévu de parler et des électeurs et des candidats. Alors on va y aller cas par cas et comme ça, pour bien cerner cette problématique de la sécurisation des électeurs. Donc comme ça, avec des exemples concrets, vous allez tour à tour expliquer à nos auditeurs comment vous comptez ou vous avez prévu de sécuriser ceux-là qui vont participer au vote. Et le premier exemple que nous prenons est celui des Mbandaka. En effet, en Équateur, la population dénonce la campagne d'intimidation menée par les partisans de certains partis politiques. Des habitants trouvent que les propos que tiennent déjà certains leaders politiques vont entraver leur liberté de voter pour qui ils veulent. Alors, on écoute ces témoignages recueillis par la radio Kapimbandaka.
Et participer au discours du MLC à partir de Karawa. C'est monsieur, il a dit ceci. Si on ne vote pas pour le MLC, on va recommencer la guerre. C'est-à-dire, il y a la propagande d'intimidation. Or, nous attendons qu'on organise les élections libres et démocratiques. Est-ce que de pareils discours, c'est permis ou pas? C'est-à-dire un ministre du gouvernement qui est en train d'intimider. C'est pourquoi nous menacent, parce que nous sommes dans ce qu'ils appellent le fief du MLC. Et nous sommes entourés de l'ère militaire. À côté, il y a le ministère des députés et les autorités en place sont tous du MLC. Maintenant, nous ne sommes pas libres de voter si nous sommes en faveur de lui.
Vous avez suivi ces témoignages, mais poursuivons avec un autre exemple. Cette fois-ci, c'est là, c'est passe au Katanga. Depuis que Kyungu Mutanga, appelé Gédéon, ainsi qu'une centaine de ses maïmaï ont déposé les armes, les climats semblent plutôt à l'apaisement dans le nord Katanga. Cependant, l'ONG Kanyundu du frère Luis Aerden, opérant au Katanga, tire la sonnette d'alarme. L'intolérance politique peut tout aussi bien que la guerre compromettre les élections dans cette partie de la République. Et Lupuembwe Kilumba Cyril, vulgarisateur de cette ONG, en veut pour preuve la marche de ce lundi matin à l'UENA, qui a vu le partisan du PPRD déchirer les drapeaux du MLC. L'UENA, je rappelle, est à 450 km au nord du Katanga. On écoute Lupuembwe Kilumba.
Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur carte d'électeur, surtout dans la partie de la chefferie de Butumba, et notamment le groupement Upemba. Et c'est un groupement qui a été totalement dévasté. Là, ce sont les Maïmaï qui avaient élu domicile. Et dans leur perquisition, dès qu'ils trouvaient quelqu'un avec une carte d'électeur, on devait, du moment où ce grand seigneur de guerre, notamment Gédéon, a été mis aux arrêts, et je pense que psychologiquement, les gens n'attendent que les élections. Hein. Mais il y a aussi autre chose, parce que les élections, oui, il faut alors qu'il y ait la culture de la tolérance. Hein, parce qu'aujourd'hui, ce matin, au niveau de l'ENA, nous venons d'apprendre qu'il y a eu une manifestation où les responsables locaux ont dû, dans leur adresse, inciter d'une manière ou d'une autre la population à pouvoir se comporter d'une manière un peu non autorisée à l'endroit d'autres donc membres des partis politiques, notamment les mêmes, les MLC, qui saisit son drapeau du Chili.
Alors, Général Isidore Odimola, ce sont des cas concrets, au fait, pour lesquels les auditeurs ou les Congolais veulent avoir des réponses. Quand on parle de la sécurisation des élections, comme vous l'avez dit, il faut l'attendre dans plusieurs volets. Mais est-ce que le dispositif que vous avez déjà arrêté pour la sécurisation des électeurs prend également en compte ce volet?
Mais bien sûr, madame, les propos haineux, les propos qui sèment la haine qui menace les autres sont interdits par les lois qui existent, qui nous gèrent dans ce pays. Nous, pour ce qui est des opérations proprement dites, les dispositions sont déjà prises pour assurer à tout moment la sécurité des électeurs quand ils vont exprimer leur vote.
Oui, mais dans ces cas-ci, qu'est-ce que vous avez prévu?
Mais dans ces cas-ci, les lois de la République doivent être respectées. Les cours des tribunaux existent et doivent fonctionner. quand il y a ce genre de propos, quand il y a ce genre d'actes, les cours et tribunaux doivent fonctionner.
Monsieur Kemal Saïki, la MONUC a-t-elle également songé à protéger les électeurs face à ce genre de menaces?
Écoutez, nous avons toujours dit, je crois que ce n'est pas la première fois que je l'ai dit sur cette antenne, que nous n'aurons aucune tolérance envers ceux qui tiennent des propos visant à inciter à la haine, que ce soit une haine régionaliste, ethnique, politique. La tenue des élections ne peut se faire que dans un cadre de sécurité, un cadre serein. Cela exclut toutes les manœuvres et tentatives de menaces et d'intimidation qui empêcheraient les étudiants, les citoyens, qu'ils soient étudiants ou autres, à exercer leur droit de vote. Nous avons déjà à plusieurs reprises prôné non seulement une culture de la paix, mais dénoncé des gens qui, par leurs propos, allaient à l'encontre de cette culture de paix. Et je crois que ce sont des dispositions que nous ne manquerons pas de souligner. Il y a, comme l'a dit le général, un cadre légal, juridique, et des gens qui se livrent de tels actes, qui ne respecteraient pas le code de conduite auquel sont astreints tous les candidats, tomberaient sous le coup de la loi.
Colonel Jacques Ebenga, dans cet élément que nous venons de suivre, notre interlocuteur dans l'élément de Mbandaka soulève le problème de la présence des militaires et des administrateurs qui sont tous membres de l'ex-rébellion du MLC. Les électeurs de cette contrée ont-ils raison de craindre de ne pas voter librement à ces jours?
Évidemment, il n'y a pas que de ce côté-là. Nous avons appris également qu'à Kolwezi, il y a eu une marche où les territoriaux, le premier rang, ont marché. Vous savez que cela pose un problème quand la territoriale ou les services de l'ordre ne sont pas neutres. Ça pose de grands problèmes. Je pense qu'avec les services de la police, ce n'est pas le problème. Mais en tout cas, la territoriale doit se montrer davantage neutre de part et d'autre du pays pour que, malgré leur coloration politique, parce qu'ils ont été positionnés par les composantes politiques, qu'ils assument d'abord leur devoir d'État avant de manifester leur appartenance politique. Et ça, c'est un problème, de rappel à l'ordre par le ministère de l'Intérieur vis-à-vis de tous ces territoriaux-là, pour qu'ils n'aillent pas à se mouiller trop dans les questions politiciennes de l'heure. Parce que là, ça devient compliqué. S'ils doivent autoriser une marche ou pas, on dira qu'ils l'ont fait ou pas parce qu'ils sont de tel ou tel
pouvoir. La présence de militaires appartenant à une seule composante, par exemple, est-ce que ça ne pose pas des problèmes du moment qu'on parle effectivement des unités déjà intégrées?
Il ne doit plus exister de militaires appartenant à une composante. Bon, on peut parler d'ex-composante, c'est vrai. Mais le processus du brassage lui-même n'est pas encore achevé. Vous le savez très bien. Nous en sommes à peine à une dizaine de brigades. Près de 10 brigades, tout au plus. Donc on a encore beaucoup à faire, ça veut dire qu'il y aura encore beaucoup d'éléments qui ne seraient pas encore brassés, intégrés, qui, pendant le processus électoral, se trouveront encore sur le terrain. Donc il faut, à tout prix, à mon sens, au niveau de l'armée, déjà prendre des dispositions très rigoureuses quant à ne pas autoriser les militaires à se tromper dans les questions politiciennes de l'heure.
D'accord, parlons maintenant de l'autre source d'inquiétude de la population en ce qui concerne les élections, à savoir l'insécurité causée par la présence des groupes tant nationaux qu'étrangers. Alors, rendons-nous en Ituri où, pour la population de ces districts, la présence de nombreux miliciens est un obstacle majeur pour la tenue des élections dans certaines localités. Et suivant ces témoignages recueillis dans cette partie de la République par notre confrère François Xavier Mibé.
Nous avons besoin de la paix ici comme nous approchons des élections. Il n'y a pas de militaires qui puissent sécuriser les localités comme Nyamamba, Kichama, Bua. Il faut bien que les militaires restent dans les environs de ces localités pour que la population se sente en sécurité. Les miliciens pénétraient ici même la nuit. Ce sont les blancs des droits de l'homme qui ont fait de leur mieux pour résoudre ce problème.
Prenons un autre exemple en rapport avec la présence, cette fois-ci, des combattants étrangers sur le sol congolais, qui constituent également un obstacle pour la tenue des élections. Au sud Kivu, par exemple, les populations vivant dans les localités où les combattants auto-rwandais opèrent s'inquiètent aussi. On les écoute dans ces témoignages recueillis par notre confrère Claude Kinza.
la population de Bunyaki ne sera pas votée. Avec cette situation que nous vivons, beaucoup d'entre eux sont déplacés. Dans les territoires de Kabar et Kavum, Bukavu et ailleurs, ils ne seront pas votés à Bunyakiri, d'autant plus qu'ils ne seront pas dans leur circonscription électorale.
Le centre de vote est fixé à Kamisimbi et à Tchabakiga. À cet endroit-là, la population ne sera pas en mesure d'aller voter parce qu'il y a les insuffisants ici qui se vivent là. De deux, nous sommes en train d'observer les gens qui sont en train de quitter notre groupement de Kamisimbi vers Bukavu pour se réfugier contre ces insuffisants-là. Ça peut empêcher à ce que les élections ne se passent pas bien et puis on sait les résultats. Cela nous pousse à nous poser beaucoup de questions sur notre sécurité pendant la période d'élection.
Oui, Général Isidore, avez-vous des réponses pour ces inquiétudes? Et déjà, si vous pouvez répondre à cette question des Kamango Kongubili, qui est à Butembo Nord Kivu, qui veut savoir quelles sont les stratégies et mesures déjà prises pour favoriser la tenue des élections de façon idoine. Je pense que là, il voulait dire des élections qui conviennent en Ituri et au Nord Kivu.
Madame, nous sommes en période post-conflit, qu'il existe par-ci par-là quelques poches d'insécurité, cela tout à fait normal. Mais l'armée, avec l'appui de la MONUC, est en train de se déployer, est en train d'accomplir sa mission. Nous l'avons vu en Ituri. Je crois que les combattants, les miliciens ont été mis hors d'état de nuire. Mais s'il reste quelques poches d'insécurité, ça ne peut pas empêcher l'organisation d'élections en Ituri.
Mais qu'est-ce que vous croyez pour ces habitants-là qui sont dans ces poches même d'insécurité?
Nous avons déjà pu tenir deux phases de processus, c'est-à-dire l'identification des électeurs et l'enrôlement des électeurs, le référendum constitutionnel. Ce sont là des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Mais maintenant, pour ce qui concerne ces quelques poches, aussitôt que l'armée tient en respect les fauteurs de troubles, la police parviendra certainement à sécuriser les habitants.
Donc, votre travail dépend même de ce que fera l'armée sur le terrain?
Mais en grande partie, oui, parce que là où vous sentez l'odeur de la poudre, on ne peut pas, avec la matraque, sécuriser nos concitoyens. Il y a un préalable, il faut que les poches soient nettoyées et la police fera son travail.
Qu'est-ce que vous conseillerez aux habitants qui sont dans ces zones-là insécurisées et qui attendent quand même les élections?
Mais je crois qu'au niveau de la commission électorale indépendante, il y a des mesures qui ont été prises pour rendre possible le vote exprimé par des gens, des déplacés de guerre, tous ceux qui doivent quitter les zones insécurisées.
Monsieur Kemal Saïki, Mati Bawere depuis Goma au Nord qui vous pose cette question. Est-ce que les élections seront bien sécurisées quand bien même on n'a pas encore réglé les problèmes des insurgés? Jacques Bacheka de Bukavu va également dans le même sens. Il demande s'il sera possible d'organiser les élections dans les zones sous contrôle des Nkunda.
Écoutez, moi ce que je peux vous dire, qu'il y a deux aspects au problème. D'un côté, il y a un aspect militaire. Et la responsabilité première sont les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par celles de la MONUC. Et à côté de cela, vous avez une problématique du maintien de l'ordre et du respect de la loi. Et ça, c'est du ressort des forces de police. Pour ce qui est la partie militaire, comme l'a dit le général, nous sommes dans une situation de post-conflit. Ce pays a malheureusement une longue tradition de violence extrême, non seulement de violence intra-étatique, mais de violence inter-étatique. Il y a quand même eu deux guerres, dont l'une a été pas moins nommée de guerre mondiale de l'Afrique. Et après quelques années, si peu d'années, après le déroulement de ces événements, et surtout si l'on compare à ce qui s'était passé il y a un an, je crois qu'il y a quand même une amélioration assez remarquable. Nous revenons encore à l'enrôlement des électeurs, 26 millions de personnes qui ont pu s'enrôler sans qu'il y ait de problèmes de sécurité majeurs. Et souvenez-vous que les Cassandres prédisaient avant le référendum que ce serait le chaos en Ituri. Or, en Ituri, c'est là où nous avons eu le plus grand nombre de gens qui se sont enregistrés et le plus grand nombre de gens qui se soient présentés aux urnes pour approuver la Constitution.
C'est pour cela, M. Kemal Saïki, les habitants veulent savoir, par exemple, pour le camp de la MONU, qu'est-ce que vous comptez déployer des militaires dans ces zones-là qui sont insécurisées pour qu'ils puissent quand même passer leurs élections ou aller voter dans un climat de paix et de sécurité.
Écoutez, je crois que la MONU fait vraiment tout ce qu'elle peut. Et je n'en ai pour preuve que, malheureusement, et vous le savez bien, un incident qui n'est pas plus tard qu'hier, qui a vu la mort dans nos casques bleus. Donc on ne peut pas accuser la MONU de rester les bras croisés et de ne rien faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a pu amener un soldat d'un pays du confin de l'Himalaya à venir perdre la vie dans la brousse de l'Itouri? Si ce n'est cet engagement que nous avons pour la paix, si ce n'est cet engagement que les femmes et les hommes qui servent dans les troupes de la MONU, des forces de maintien de la paix en général, ont. Donc, le sens du devoir, le sens du sacrifice, la nécessité d'accomplir le travail qui est attendu d'eux, je crois, est bien présent chez tous les casques bleus. Maintenant, rappelez-vous encore une fois, le Libéria, 22 fois plus petit que le Congo, dispose néanmoins du même nombre de troupes dont nous disposons à l'heure actuelle.
Mais on a parlé précisément des renforts des troupes de l'Union européenne.
Oui, alors.
Ça ne va pas suffire?
Écoutez, que cela suffise ou pas, je crois que là n'est pas le problème. Ce qui est important, c'est que toute aide est la bienvenue. Que tout apport, que chaque homme, chaque équipement supplémentaire qui pourrait contribuer à la sécurisation de ces élections.
Oui, effectivement, ces hommes feront quoi comme travail?
Alors, écoute, je ne suis pas le porte-parole de la force européenne, mais ils ont bien dit que c'était une contribution de la communauté internationale et en particulier de l'Union européenne à la sécurisation des élections. Vous savez que la plupart de nos troupes sont concentrées dans l'est du pays, les zones de troubles. Et il y a aussi une évidence, c'est que dans d'autres parts du pays, nous ne sommes pas aussi présents que nous désirions l'être. Un peloton, une section, une compagnie qui pourrait être en rajout de ce que nous avons déjà et qui pourrait soulager le casque bleu et leur permettre peut-être, par exemple, dans l'Est, de se concentrer sur la tâche de sécurisation, ce sera quelque chose de bienvenu. Je crois que le Congo a besoin de toute l'aide qui peut lui être apportée et de toutes les assurances qu'il peut avoir.
Oui, monsieur Kemal Saïki, une petite explication quand vous parlez pour la sécurisation des élections. Est-ce que vous allez placer un casque bleu devant un bureau de vote ou
non,
ça devrait se passer comment concrètement?
Vous savez bien que c'est pas réaliste, c'est pas possible. Je répète, il ne faut pas l'oublier. La responsabilité de la sécurité des élections et de la sécurité de leur pays est au premier chef la responsabilité des Congolais eux-mêmes et de leurs services. La défense du pays, la protection de la loi et de l'ordre, ce sont les fonctions régaliennes de l'État qu'ils ne peuvent être ni abdiquées ni déléguées. Nous pouvons assister, nous aidons par tous les moyens, logistique, entraînement, support, mais la responsabilité revient au premier chef, au peuple congolais et à ses services de sécurité.
Oui, colonel Jacques Ebenga, votre réaction?
Je souscris à ce qui vient d'être dit, mais j'ajouterai à cela que le retard qu'a connu le processus d'intégration de l'armée aujourd'hui se révèle être d'un grand préjudice au processus électoral. Les poches dont nous parlions, dont vous venez de parler ici, justement, auraient pu peut-être déjà être vidées si on avait déjà atteint un format de l'armée qui aurait pu permettre de mener ces actions-là. Avec le concours de la MONUC, comme on vient de dire monsieur le porte-parole, on essaie de faire ce qu'on peut. Hélas, avec la casse, avec la perte d'hommes chers comme le Népalais qui vient de décéder. Mais je pense qu'on a eu de retard, et ça c'est regrettable. Il faut se déployer encore davantage, ne fût-ce que pour les élections.
Il reste pratiquement un mois.
Oui, mais prendre tout ce que nous pouvons avoir en réserve comme corps de police et autres, et de l'armée surtout, qui sont disponibles dans les villes, les envoyer, aller essayer de faire le maximum pour cette période, pour que les populations qui sont à Bouniakiri, par exemple, il y a quelques deux mois j'y étais, les populations sont désemparées. On ne sait pas à quel bureau de vote ces populations doivent aller voter, ils le disent eux-mêmes, hein, elles le disent elles-mêmes. Donc il y a tout cela qui n'est pas sécurisant.
Surtout qu'ils doivent voter dans des endroits où ils se sont fait enrôler.
Bon, si c'est cela la règle, donc ces gens seront empêchés de vote par le fait de ne pas pouvoir le faire à des endroits sécurisés. Mais j'aimerais peut-être ajouter quelque part aussi que la police qui est chargée de cela, de la sécurisation, parfois aussi, elle connaît des problèmes. On a connu des cas où des policiers sont partis avec le matériel électoral, où la sécurité à Calémy, les bureaux de vote n'a pas été assuré au point que les bureaux ont été incendiés. Donc, il y a tout cela qui doit faire aussi réfléchir les organes qui sont chargés de cela pour améliorer la discipline et les conditions de travail de la police.
Parlons maintenant de la sécurisation des candidats présidents de la République, voire ceux des députés nationaux qui ne sont pas dans les institutions de la transition. Eux aussi se posent de nombreuses questions quant à leur sécurité. Quelques cas illustrent cette inquiétude. Vous vous rappelez dernièrement, par exemple, les résidences des quelques candidats à la présidentielle ont été encerclées par la police lors de la marche le 24 mai organisée à Kinshasa par certains membres de l'opposition. Les candidats concernés ont condamné cette présence policière, mais pour le gouvernement, il s'agissait de les protéger contre toute attaque. Ces événements ont soulevé plusieurs questions en rapport avec la protection donc des candidats. Et avec notre stagiaire Willy Akonda, voyons d'abord qu'est-ce qui est prévu pour ces candidats.
Tous les 33 candidats présidents de la République en campagne électorale et lors du vote doivent être traités avec égalité. La loi électorale précise que les forces de l'ordre les protègent de la même façon. On pourrait donc dire que s'il faut 5 policiers pour un candidat, il en faudra 5 à chacun de ces 33 candidats. Actuellement, certains candidats sont animateurs des institutions et bénéficient d'une protection particulière. Quelques-uns d'entre eux ont des dizaines de gardes rapprochés, alors que d'autres concurrents n'en ont pas. Certains candidats accusent d'autres d'avoir de l'influence sur les forces censées protéger les candidats. C'est le cas du candidat Oscar Kachala, qui s'est dit intimidé, tracassé et mis sur écoute par les services d'une composante du gouvernement. Sera-t-il possible pour une personne de bas de campagne dans une zone reconnue comme fief de son concurrent? Comment sécuriser les candidats? La question ne se pose pas seulement pour les candidats président de la République, mais surtout pour les candidats députés. Concernant la sécurité de ces derniers, la loi électorale est muette. Parmi eux, il y a des hommes politiques vivant en farouche adversaire. La question reste de savoir quelles dispositions concrètes seront prises par les services publics pour protéger les candidats qui se trouveraient en danger.
Général Isidore Oudimoula, vous êtes coordonnateur du groupe technique pour la sécurisation des élections. Est-ce que vous pouvez déjà répondre à cette question? Quels sont les dispositifs, au fait, que vous avez pris pour sécuriser les candidats?
Bon, je dois d'abord revenir un peu en arrière pour parler de l'encerclement des résidences de certains candidats, etc. Je crois que le 25 à 20h30, le ministre de l'Intérieur a fait diffuser un communiqué à ce sujet. Je m'en tiens au contenu de ce communiqué et je n'ai pas d'autres commentaires à faire là-dessus. Maintenant, je ne connais pas, en ce qui concerne les candidats présidentiels, un seul qui ait exprimé le besoin de se faire protéger et qui n'a pas été protégé par la police.
Ah bon, parce qu'il faut exprimer ces besoins-là ou bien c'est automatique, c'est spontané?
Mais bien sûr qu'il faut que les besoins soient exprimés par celui qui se sent en sécurité. Si on le fait d'initiative, on va encore accuser la police d'encercler d'initiative les candidats. Mais il faut que les besoins soient exprimés par les intéressés. Et je crois qu'à ce sujet-là, des consultations pourront se faire. Il n'y a aucun problème à ce sujet en ce qui concerne les candidats à la présidence.
Donc, général, si lors des élections, il n'y a aucun candidat qui a exprimé le désir d'être protégé, vous ne le ferez pas?
Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée, madame. En ce qui concerne les autres candidats, au niveau des législatives, nous avons 9000 candidats. Nous venons d'enregistrer, je crois la série vient d'enregistrer maintenant, 10 000 candidats au niveau des candidats aux élections provinciales. Mais ça vous fait combien? Si chaque candidat devait disposer d'une protection, la police sera complètement épuisée rien que pour la protection des candidats.
Parlons rien
je
que
crois
des
que
candidats
nous,
présidents.
Pour les candidats
ils sont présidents,
il n'y a aucun problème dès lors que... il y a des besoins qui sont exprimés clairement par les intéressés, il n'y a aucun problème. Ils sont 33, vous multipliez ça par 5, ça vous fait comme juste une compagnie pour les 33, il n'y a aucun problème à ce sujet.
Oui, M. Kemal, qu'est-ce que la MONUC a prévu quelque chose pour les candidats?
Non, il n'y a rien de prévu de spécifique. Vous savez, pendant la période de la transition, nous avions assuré la protection des membres de l'espace, en tout cas de certains membres de l'espace présidentiel, et qu'à partir du moment où nous approchons de la fin de la transition, d'autres dispositions ont été prises. Et pour les 33 candidats à la présidentielle, là encore, c'est une fonction qui est dévolue au service de sécurité congolais. Nous assurons la sécurisation générale en accord avec la police nationale congolaise et les forces armées congolaises, la sécurisation générale du pays et du climat de sécurité. Je voudrais faire une remarque à ce sujet, parce qu'on a beaucoup parlé des mesures à l'encontre des fauteurs de troubles potentiels, extérieurs ou intérieurs, mais de même que le colonel l'avait fait remarquer, ce qui était important, c'était l'élément concernant les troupes. Et là encore, une chose que nous avons toujours dit, tant que les conditions de service des forces armées congolaises et aussi des personnels de sécurité ne seront pas améliorées, tant qu'ils ne seront pas équipés de manière adéquate, tant qu'ils ne seront pas bien et régulièrement payés, tant qu'ils ne seront pas nourris, tant qu'ils ne seront pas pris soin de leur famille, ils représenteront toujours un facteur d'instabilité. Non seulement eux, mais vous savez que récemment il y a eu des troubles où des ex-combattants impatients de ne pas avoir reçu leur dû se sont exprimés violemment. Ils se sont exprimés violemment, ils se sont pris au symbole le plus visible, le plus évident, qui n'avait rien à voir avec leur problème, qui était la MONUC. Mais lorsque vous avez ce type d'incident, cela crée une instabilité, cela remet en question la sécurité, le climat de sécurité générale. C'est pour ça qu'il est urgent que les autorités responsables veillent à ce que les revendications légitimes de ces groupes-là soient satisfaites, et soient satisfaites sans attendre, sans pourrissement de la situation. Il n'est pas normal que ces démobilisés en arrivent à incendier ou à jeter des pierres pour faire entendre leur voix et pour obtenir leur dû. Ce n'est pas normal. Il en est de même pour les soldats, il en est de même pour les policiers, il en est de même pour le personnel électoral. Merci. Tant qu'il y aura ce type de problème-là, cela contribuera à l'accroissement de l'insécurité générale dans le pays.
Oui. Colonel Jacques Benga, brièvement, votre réaction par rapport à ce qui concerne la sécurisation même des candidats.
Je note d'abord que les candidats doivent demander, semble-t-il, à la police pour se faire protéger. Mais ils ont été protégés, malgré eux, quand ils ont été encerclés sans avoir demandé à la police. C'est là un peu qu'il y a quelque chose qui doit être, arrangé d'ici là, avant qu'on ne puisse plus demander à la police une protection, parce qu'elle vient d'elle-même d'initiative et empêche le candidat de sortir pour mener ses activités politiques. Voyez-vous que cela dérange. Donc il faut que, à mon sens, qu'on crée quand même un cadre, où tout cela se fait de la transparence. Pourquoi est-ce que les candidats n'ont-ils pas confiance à la police? Parce qu'il semble que c'est le cas, ils n'ont pas demandé la protection. Alors, sont-ils menacés et menacés par qui? Alors, se sont-ils menacés par la police elle-même? Il faut le croire, parce que...
Prenons un exemple concret, parce que en tant que candidat président de la République, je ne me sens pas sécurisé dans mon propre pays. C'est ce qu'a déclaré à Radio Okapi Oscar Kachala, qui est président de l'Union pour la reconstruction du Congo, UREC en sigle. Selon le président de ce parti politique, des éléments au service du pouvoir surveillent toutes ces communications et tous ces mouvements. On écoute ces candidats présidents au micro de René Capita.
Moi, je me sens pas en sécurité en tant que candidat à l'élection présidentielle dans mon propre pays, pour la simple raison que les agents qui devaient garantir ma sécurité ont été arrêtés par le gouvernement le mardi d'il y a une semaine. Comme vous le savez, il y a des forces de sécurité de l'État qui sont en train d'être utilisées pour me déstabiliser sur le plan de l'organisation de notre campagne et même sur le plan du déplacement, en nous filant, en enregistrant nos communications téléphoniques, en plus en créant des situations tout à fait montées qui veulent entamer notre crédibilité en nous liant à une histoire, une fausse histoire de mercenariat, voulant avoir une discussion franche avec les forces de la MONUC qui sont les seules forces en place ici pour étudier les mécanismes à travers lesquels notre sécurité personnelle pourra être établie et renforcée pendant la période des élections. Et sur le plan de la loi électorale, il y a eu une provision qui dit que les candidats à l'élection présidentielle devront recevoir une protection de la part de la police de cet État. Mais moi, je n'y crois pas, parce que tout ce qu'on a prévu comme réforme au niveau de la police n'a pas été complété.
Général Isidore, vous avez suivi cette réaction d'un candidat président. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Ou bien est-il permis, par exemple, que les téléphones des candidats soient mis sur écoute?
Il n'y a rien qui est permis, madame, au sujet de la filature, de la mise sur écoute téléphonique. Mais moi, je pense que ces déclarations n'engagent que leur auteur. Je ne suis pas au courant de tout ce qui vient d'être déclaré là.
Mais vous avez prévu quelque chose pour protéger les candidats qui s'habiteront à ce genre de problème?
Mais bien sûr, tous les candidats ont droit à une égale protection, comme dit la loi. Il n'y a aucun problème. Dès lors qu'un candidat se sent dans l'insécurité, nous sommes dans un état de droit qui trouve les autorités des institutions établies et il sera protégé.
Et est-ce que la MONUC prévoit également quelque chose pour dans ces genres de circonstances ou bien votre intervention légitime et militaire?
Non, je crois avoir déjà répondu. Il y avait des dispositions qui étaient prévues dans le cadre de la transition pour ceux qui faisaient partie, certains membres de l'espace présidentiel. Ces dispositions sont arrivées à échéance. Et la responsabilité de la protection directe des candidats présidentiels n'est pas du ressort de la MONUC.
Colonel Jacques Benga, le problème qui soulève ces candidats n'est peut-être pas militaire, mais est-ce que vous avez votre idée là-dessus?
Il s'agit d'une crise de confiance. Les candidats n'ont pas confiance dans les forces de l'ordre qui sont à leur disposition.
Mais comment comprendre ces rapports de force là entre ceux-là qui sont dans les institutions de la transition et des candidats qui ne sont pas dans ces institutions?
Parce qu'ils considèrent que les institutions actuelles ne sont pas neutres. Voilà leur grand problème. Et que la police est au service de ces institutions-là. La police doit proclamer sa neutralité, tout comme l'armée d'ailleurs. Vraiment être indépendante.
Nous avons le général de la police qui est là. Est-ce que la police est-elle neutre en ce qui concerne l'organisation même des élections?
La police est tout à fait neutre, madame. La police actuelle qui fonctionne en République démocratique du Congo, c'est une police qui est fusionnée. Toutes les polices qui ont fonctionné dans toutes les parties jadis contrôlées par les différentes rébellions sont unifiées sous un seul commandement. Et les différents commandements territoriaux ont été, si vous voulez, brassés. Et donc, il ne se pose plus de problème d'unité ou de neutralité de la police nationale. Elle est neutre, elle est apolitique et elle est au service de tous les citoyens.
Alors, pour clôturer cette émission, je vais inviter ma consoeur Nadine Foula à lire quelques opinions des auditeurs.
Oui, nous commençons par Jules Boulambo qui a Ouvira. Il estime que la plupart de nos candidats doutent de leur sécurité. Nous avons aussi Madame F. Bazaïba Massoudi qui demande quand est-ce que le président et le vice-président seront respectivement gardés par la garde républicaine en lieu et place de leur ministre privé qui sème la désolation à chaque fois que les cortèges se rencontrent et pendant la campagne ça risque de mal tourner. De Kinshasa, nous avons Freddy qui s'adresse au général. Il voudrait connaître les critères de sélectivité de cette police et quand est-ce que, pendant qu'on sait qu'elle obéit aveuglément au PPRD. Enfin, nous avons Lebo Kaponda qui est à Goma. Il se demande si les FRDC et la MONUC seront en mesure de sécuriser les élections en Ituri alors que les milices semblent être plus forts que eux.
Oui, brièvement, dans 30 secondes, parce que 30 secondes chacun, parce que nous tendons vers la fin de cette émission. Je commence par vous, général Isidore. Il y a une question qui s'adresse directement à vous. Les critères de sélectivité de cette police, quand on sait qu'elle obéit aveuglément au PPRD, est-ce vrai?
Quelle preuve a-t-il pour avancer cela? La police qui obéit exclusivement au... Je vais vous dire ceci.
Donc, c'est pas vrai?
Non, je vous réponds. Oui ou non, c'est pas une réponse.
Écoutez, c'est le bas aussi à Kinshasa.
Dans les différentes, à tous les échelons de l'administration territoriale, la police est au service des autorités politico-administratives. Ce sont ces autorités-là. Et vous ne me direz pas que dans tous les ressorts de la République, il n'y a que les autorités issues de l'ex-composante, ex-gouvernement.
D'accord. Merci beaucoup. Donc, nous mettons un point final à cette émission. Donc,
Nous sommes vraiment à la fin et nous excusons donc de ne pas recueillir les commentaires des uns et des autres par rapport à ces opinions.
Le dernier commentaire qui avait été fait lorsque dites que les milices sont plus fortes que la MONUC et les FRDC, c'est faux. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes en train de gagner en Ukraine. Nous sommes en train de gagner.
Donc nous disons merci à tous les auditeurs qui ont réagi à cette émission. Cette émission sera rediffusée demain matin à 4h45 heure de Kinshasa. Vous pouvez également la retrouver sur le site internet sur www.radiokapi.net. Au revoir et à la prochaine.